c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Il y en a plus. Oh non, plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
À tous,
on y va.
Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vivement ce soir qu'on se couche du mardi 24 janvier. Mardi 24 janvier, vous avez peut-être vu des affiches placardées sur les murs de Saint-Aff. Pourquoi? Parce que ce soir au Petit Carré d'Art, la compagnie Théâtre Molotov vous propose de voir ou revoir Cocktail 7, une pièce que Sarah et Nico, de la compagnie des Molotov, nous ont présentée dans notre émission de vendredi, que vous pouvez télécharger sur notre site www.radiosaintafrique.com. C'est de l'autopromo à plein tube. Sinon, pour aujourd'hui, qu'est-ce se passe-t-il? Une grosse chemise à rayures avec le groupe Droit et Liberté, avec l'asso Myriade et la compagnie Création Éphémère, et puis une expo photo qui a bien plu Elsa de Cour. C'est à 7, ça peut vous donner un bon prétexte pour aller flâner du côté de la Méditerranée et manger des fruits de mer au bord de la plage. Ça donne envie, vite à 11h, on prend la voiture, on s'en va. Sylvie Boulard, quant à elle, a fait une parenthèse cette semaine dans sa parenthèse littéraire. Elle cède sa place à Florence pour des lectures d'Aragon. Et avant de retrouver les choux et les fadaises d'Elsa Gourmand, laissez sortir le monstre qui est en vous, ça fait du bien.
Je rêve d'être méchant, que mon cœur foute le camp, de botter le cul de l'abbé Pierre, de foutre une droite à ma grand-mère. Je rêve d'être méchant, de crever les yeux du voisin, de vomir dans son beau jardin et de noyer son chien dedans. Je rêve d'être méchant, un traître de gamme, de baiser toutes les femmes de ceux qui sont dans mon camp. Je rêve d'être méchant, que rien qu'en regardant ma femme, il y ait une petite flamme qui me dise de changer de penchant. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Les derniers des rebelles sont ceux qui trouvent que la vie est belle. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Je rêve d'être méchant, de raconter aux enfants que sous sa barbe le Père Noël se balade en porte-jartel. Je rêve d'être méchant, de prendre la clé des champs de bataille d'un sourire qui s'allume les dents ne soit qu'un feu de paille. Je rêve d'être méchant, un marchand de mensonges, de cracher sur les passants sans jamais passer l'éponge. Je rêve d'être méchant, que tous les immigrés, du Polonais jusqu'au Birman, foutent le camp de mon plein gré. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Les derniers des rebelles sont ceux qui trouvent que la vie est belle. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Belles sont ceux qui trouvent que la vie est belle. Je rêve d'être méchant, un connard col blanc, un grand financier d'enfoncer le monde les pieds au plancher. Je rêve d'être méchant, d'offrir aux plus souffrants, à ceux qui crèvent de rendre un véritable pont d'or. Je rêve d'être méchant, d'arracher la queue des mouches, de faire mouche dans le cul de Satan, de l'embrasser sous la bouche. Je rêve d'être méchant, de me défiler comme tous les fils, que la chair de mes chers parents pourrisse au fond d'un hospice. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Les derniers les rebelles sont ceux qui trouvent que la vie est belle. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Les derniers les rebelles sont ceux qui trouvent que la vie est belle. Mais je n'y arrive pas, j'en rêve, mais je n'y arrive pas. Les derniers des rebelles sont ceux qui trouvent que la vie est belle.
premier CD de la semaine. Il rêve d'être méchant, il n'y arrive pas, le pauvre. Mais il faut vraiment qu'il écoute Choué Fada et Zelza Gourmand, parce que je suis sûre qu'il y a tout plein de personnages dont il pourrait s'inspirer.
Chou.
Fadaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah.
Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, on commence avec un tour d'horizon des quotidiens de ce mardi 24 janvier 2012. Alors après avoir fait la une de presque tous les journaux hier, aujourd'hui François Hollande inspire encore le monde avec une analyse de son discours de dimanche. Libération qui s'interroge sur la crédibilité du candidat contre le monde de la finance et passe au crible ses propositions économiques. Et enfin, d'une certaine façon, le Figaro qui, fidèle à lui-même, nous propose une photo de Sarkozy avec ce commentaire « Face à Hollande, Sarkozy reste serein ». On est content pour lui.
Ah bah oui.
Hein, bah oui. La Croix a fait sa une sur l'école catholique qui interpelle les candidats et propose un entretien avec Éric Delabarre, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui lui propose donc d'importantes réformes de la scolarité. Chez nous, le Midi Libre titre sur l'affaire Navarro, sénateur PS. Le juge passe à l'attaque. 5 proches du sénateur, dont son épouse, ont été placés en garde à vue. L'enquête porte sur 2 billets d'avion. Le sénateur exclu du PS en février 2010 partage la une avec les 20 bio, dont le salon se déroule actuellement à Montpellier.
Ah, voilà, hein, une nouvelle un peu réjouissante, Elsa. Voilà.
Merci. L'Humanité, enfin, vous propose une enquête sur l'envers des croisières. Les damnés de la mer, titre le quotidien. Derrière le naufrage du Costa Concordia, une plongée dans le monde opaque des armateurs, des marchands d'hommes, dans un secteur déréglementé. Tout est sacrifié au profit maximum, même la sécurité. Un équipage de 1023 personnes travaillait à bord du Concordia. Sous-payé, la majorité des marins viennent des pays pauvres, nous dit l'UMA. À la déréglementation s'ajoute la course au gigantisme. Toujours plus gros, les paquebots de croisière posent de nombreux problèmes en termes de sécurité et d'environnement. Et de même dans Marianne, Vladimir de Jmeline et Jean-Dominique Mercher nous rappellent qu'en 1912, il n'était que 3320 à bord du Titanic. Un siècle après, le plus grand navire de croisière du monde peut accueillir jusqu'à 6360 personnes. Impressionnant, hein? Et on évoque même la possibilité d'embarquer jusqu'à 9000 personnes.
Tous un taf sur un bateau.
Voilà. Dès lors, des questions primordiales se posent, dont celle-ci. Comment assurer l'évacuation d'un équipage de passagers parlant une vingtaine de langues? En cas de panique, tant de monde risque d'être difficile à gérer. Et autre problème, le remorquage. Car qui peut remorquer un bateau de 100 000 tonnes par gros temps au large de Brest, par exemple? Le triple A, je suis sûre que ça vous manquait. La chute du triple A, c'est le dossier du Courrier international. La note de la France, Sarko, Le Pen et l'avenir de l'euro vu par les autres pays. Dans The Guardian à Londres met l'accent sur notre protection sociale qui coûte trop cher.
Ah,
ah bah oui. En pleine campagne électorale, le gouvernement doit annoncer l'austérité, écrit le journaliste anglais Kim Wilshire.
Kim, c'est bien.
Kim, voilà. Du côté de Pékin, dans le Wangmin Ribao, on met l'accent sur l'écart qui se creuse entre la situation française et allemande et en conséquence les difficultés qui risquent d'advenir pour les deux pays, pour que les deux pays coordonnent leur marche et continuent d'œuvrer ensemble au sein de l'Union européenne. Et justement, en Allemagne, dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, on voit le côté positif de la perte du triple A. Eh ouais, la dégradation de la note française pourrait être une bonne nouvelle, estime le quotidien conservateur. Car Paris est ainsi sommé de lancer les réformes que réclamait Berlin. Il faut réformer. À Sydney, The Australian s'interroge sur l'avenir de Sarko, grévé par cette perte. Le président risque de perdre la prochaine élection. Malgré ses réformes, il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. Et Emma Kate Simon de conclure, acculé, il est possible que le président abatte sa dernière carte.
Laquelle?
Tu sais pas?
Non.
Tu devines pas?
C'est tôt là. Non, Elsa, non, je ne devine pas.
Alors, la merveilleuse Carla Bruni Sarkozy.
Le bébé va ressortir, on va avoir plein de photos bientôt.
Gageons que la première dame, une ancienne top modèle, devenue chanteuse puis actrice pour Woody Allen, quelle actrice, et qui a récemment donné naissance à la petite Julia, est en train de répéter son prochain grand rôle, sauver Monsieur Sarkozy.
Serait-ce possible alors?
Pour The New York Times...
Le pire, c'est que ça pourrait marcher. C'est ça qui est le plus dramatique dans l'histoire.
Pour The New York Times... Voilà, pam. Dis-le, toi.
Pour The New York Times...
Le constat est sans équivoque. La France n'est pas prête de sortir du marasme. Les aspirants à la présidentielle, de peur de déplaire, sont muets sur les grands chantiers à mener. Toutes les réussites et le caractère unique de la France ne suffisent plus à cacher un sentiment de déclin et de perte d'identité. C'est triste. Enfin, pour El País, à Madrid, la dégradation de la France risque d'ouvrir un boulevard au Front National qui surfe sur un discours simple contre les banquiers et l'euro. Toutefois, tempère Miguel Lamora, les Français sont 61% à rejeter la proposition principale du Front National, à savoir la sortie de l'euro et le retour au franc. Mais la campagne n'a toujours pas commencé. Et si Sarkozy continue à hésiter et que la crise s'aggrave, cela finira peut-être par en convaincre plus d'un. Un oiseau de mauvaise augure, hein, ce journaliste espagnol. Ceci dit, quand on voit le niveau du débat politique en France, il y aurait peut-être de quoi s'inquiéter. Ainsi, Politis note que François Fillon, qui se réclamait naguère d'un certain général de Gaulle, pour qui la politique de la France ne devait pas se faire à la corbeille, suggère dans le journal du dimanche à François Hollande de soumettre son programme électoral à Standard & Poor's. Pour le Premier ministre, il serait intéressant de savoir ce qu'une agence de notation en pense.
Bien sûr.
Les candidats, après avoir obtenu les 500 parrainages d'élus nécessaires à la présentation de leur candidature présidentielle, devront-ils à l'avenir décrocher un certificat de conformité libérale auprès des agences de notation anglo-saxonne, interroge Politis. Et dire que M. Fillon a refusé récemment encore d'accorder le moindre droit de vote aux étrangers établis de longue date sur notre sol. Terrible. Ça vole bas, au ras des pâquerettes, on dit.
Le péril qui nous guette.
Zorba le grec, pour parler de la Grèce.
Ah.
Et ouais, parce que les remèdes appliqués contre la crise peuvent s'avérer pires que le mal qu'ils prétendent soigner. Courrier international, toujours, nous révèle, via un article de Ikati Merini d'Athènes, un phénomène nouveau en Grèce. Selon les services sociaux, les cas d'abandon d'enfants que les familles ne peuvent plus nourrir se multiplient. Courrier international raconte, enfin le journal d'Athènes raconte... Un soir, Anna était encore à l'école.
Oui.
C'est pas drôle, Chloé. Alors non. Chloé se marre derrière la vitre.
Elle se met en lotus et elle fait des... Et elle rigole, bravo.
Bon, non, là, l'heure est grave. Un soir, Anna était encore à l'école et sa maman ne venait toujours pas la chercher. Les instituteurs ne savaient plus quoi faire. Puis la petite a sorti de sa poche un papier. C'était une note qu'elle ne pouvait déchiffrer à son âge. Anna, je ne viendrai pas te chercher ce soir, je n'ai pas d'argent, je ne peux plus m'occuper de toi, pardon, ta maman. La personne qui raconte cette histoire m'en parle comme d'un cas qui n'est pas isolé. Dans cette situation, que pensez-vous que l'école puisse faire? Ils ont appelé le juge pour enfants et ce dernier nous l'a envoyé. Témoigne Stratos, responsable d'un centre d'accueil pour enfants en détresse. Tout cela n'a rien d'un roman de Dickens, cela se passe aujourd'hui dans une banlieue d'Athènes. La maman d'Anna n'est pas folle, c'est une jeune femme qui a perdu son travail et a paniqué. Il y en aurait des centaines comme elle aujourd'hui en Grèce. Des parents tombés dans une impasse économique et qui ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Et puis pour couronner le tout, hier soir, la zone euro a mis la pression sur la Grèce pour serrer encore plus la ceinture de sa population. J'ai entendu ça ce matin à France Inter. Un commentaire?
Oh non, écoute,
non, non. Pff,
ça se suffit.
Ça se suffit à soi-même.
Voilà, on va arrêter là.
Voilà tout petit, je voudrais plus vivre d'autres histoires. Cosette, elle est partie, moi je suis toujours là dans mon trou.
La minute féminine avec Cosette, le magazine plus féminin du cerveau que du capiton.
Avec un petit bout de tête raide avant. Alors ça par contre, c'est cool Elsa. Merci.
coûte rien.
T'en veux d'autres, des commentaires hyper constructifs comme ça, je peux t'en donner.
Non, mais ça me réchauffe le cœur. Voilà. C'est bien, ça me donne du cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce que, où j'en étais d'ailleurs ?
Cosette.
Donc, Cosette, le magazine plus féminin du cerveau que du capiton, et ça porte sur la visibilité des femmes dans les médias. Alors en 2008, un rapport de la Commission sur l'image des femmes dans les médias était sorti. Et sa conclusion n'était pas brillante. Les médias avaient l'impression que les femmes étaient partout, nous explique Brigitte Grézy, ex-inspectrice générale des affaires sociales et rapporteuse de l'étude. Il disait « Elles sont grands reporters, elles présentent les journaux, on ne voit qu'elles ». Et puis on avait compté, elles n'étaient presque nulle part. Il y avait 30% de femmes à la télé. C'est très peu, mais le ressenti est important. Les hommes sont tellement évidemment à leur place qu'on ne les voit plus. Et les femmes sont tellement évidemment non légitimes que, quand elles sont là, on ne voit qu'elles. De ce rapport 2008 était tout de même sorti un accord signé par les médias concernés sur la volonté de promouvoir les femmes en tant qu'expertes. Car les quelques femmes auxquelles on tendait le micro, c'est surtout en qualité de témoin ou de victime, rarement en tant que spécialiste légitime d'un sujet. 2011. Nouveau rapport de la Commission sur l'image des femmes dans les médias, mais consacré donc cette fois aux seules expertes. Et là, on constate que rien n'a changé. On ne trouve que, toujours que 18% de femmes invitées en tant qu'expertes par les médias qui, cette fois, et ça c'est nouveau, cherchent à se justifier sur l'air « je voudrais bien, mais je peux point ». Et de développer plusieurs arguments que Brigitte Grézy, donc la rapporteuse et vice-présidente de la commission, détaille. Premier argument, l'argument de la compétence. Le directeur de C'est dans l'air, par exemple, il y a 7% d'expertes invitées sur les plateaux, affirme avoir demandé aux trois filles qui préparent l'émission pourquoi elles ne mettaient jamais de femmes. Elles lui ont répondu « parce qu'elles sont moins bonnes que les hommes ». Alors quand on pense à la banalité et à la platitude de ce que disent les fameux experts masculins invités sur les plateaux, enfin parfois il y en a qui sont bien, mais c'est un peu rude à encaisser quand même. Autre argument, les médias ne feraient que refléter notre société inégalitaire. Et s'ils n'interrogent pas les femmes en tant que spécialistes, c'est qu'il n'y en aurait pas. Et oui, dans le 440, c'est vrai, il n'y a pas de patronne, admet Brigitte Grézy, mais on peut interroger des femmes ayant d'autres responsabilités. Et puis partout ailleurs, il y en a. Mais interviewer des expertes signifie oser prendre des risques. Les médias veulent faire leurs émissions avec des personnes qui ont déjà une notoriété. C'est un cercle vicieux, c'est une machine à éliminer les femmes. Au final, ils cloisonnent davantage que la société elle-même. Et puis, l'autre problème, en réalité, ça vient surtout des femmes. C'est les femmes qui sont responsables de cette situation. Chez France Inter, on s'alarme. Impossible d'interroger des femmes dans les matinales, car c'est l'heure où elles s'occupent de leurs enfants. La rédaction du Monde est très embêtée. À deux reprises, elle n'a pu accueillir les expertes souhaitées dans ses colonnes. La faute à cette fâcheuse habitude qu'elles ont de vouloir demander d'abord l'autorisation à leur supérieur hiérarchique. Une perte de temps qui leur fait rater le coche. Ne regarde pas comme ça, Audrey.
C'est pas une blague, là.
C'est très sérieux.
D'accord.
Enfin, TV5 Monde signale l'obstacle du syndrome d'usurpation dont souffriraient beaucoup de femmes. C'est nouveau ça, ce syndrome d'usurpation qui les pousse à refuser de répondre aux interviews si elles ne se sentent pas complètement maîtresses de leur sujet.
Ah, c'est vrai. Ça veut dire que les femmes parleraient quand elles ont des choses argumenter, c'est ça ?
Voilà, ouais.
Et les hommes, non. Du coup, ils parlent beaucoup, pour ne rien dire, c'est ça ?
Alors voilà, le plus drôle justement est que ce que tout cela raconte en creux des hommes experts. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants, se foutent royalement de leur hiérarchie et surtout n'ont pas de problème à se sentir légitimes en toutes circonstances, même quand ils ne dominent pas le sujet.
Voilà.
Flatteur.
Voudrait bien prendre le dessus avec sa gueule de petit four. Elle aimerait me piquer mon tour. Elle a beau regarder en l'air, avoir l'air de ne pas en avoir l'air. À moi, on ne me la fait pas. Je n'aime pas ces manières-là. Non mais, des fois, ouah, ouah. Non mais, des fois, ouah, ouah. C'est
grand plainte de la ménagère, c'est celle qui est pas prête à se laisser faire. C'est la grand plainte de la ménagère, c'est celle qui est pas prête à se laisser faire. Copine, elle baragouine quelques combines, ouais, ouais. Avec mon oreille extra fine, c'est pas le tout mais je devine. Elle veut le reste de ribot, il y en a encore plein de frigo, mais juste pour la titiller, c'est ce que je veux commander. Non mais, des fois, ouah ouah, non mais, des fois. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui est pas prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui est pas prête à se laisser faire.
En rentrant chez le boucher, elle ne t'a pas salué. Quand t'as dit quel temps il fait, elle t'a répondu
ta gueule.
Si elle me cherche,
elle va me trouver
dans mes poches,
les poings fermés,
l'œil fixé,
les dents serrées,
prête à lui
garder sa gueule.
Non mais des fois, ouah ouah, non mais des fois.
C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui va prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui va prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui va prête à se laisser faire.
À qui le tour pour m'avancer et lui faire remarquer que comme je ne suis pas à la chasse,
je ne dois pas perdre ma place.
Non mais des fois, ouah ouah, non mais des fois.
C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui m'a prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui m'a prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui m'a prête à se laisser faire. C'est la complainte de la ménagère, c'est celle qui m'a prête à se laisser faire.
Dans tes dents. Bah, 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 ouais.
Marcel et son orchestre, deuxième CD de la semaine, La Complainte de la Ménagère. Elsa, tu parlais des femmes.
Ouais.
Il est l'heure de vous dire une vérité. À la radio, à Radio Saint-Aff, la parité n'est pas respectée.
Ouais,
On est combien ? Quatre nénettes ?
Quatre nénettes pour deux...
Deux hommes, c'est
voilà.
Ça ?
Dans hommes. L'équipe de salariés.
Dans l'équipe de salariés. Alors bon, on n'a pas d'enfants, donc on est à peu près comme ces hommes-là qui les experts voilà. Et tout ça, donc on a un point commun avec eux. Est-ce qu'on se sent légitime ? Bon, ça, on pourra en discuter. Mais oui, ça va, on se sent légitime. Je sais pas. On va...
Et puis,
puis, on a une direction aussi. On a une direction.
Ouais, on a une hiérarchie.
On a une hiérarchie. Alors la question, c'est est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Je sais pas.
Hein ? On a quand même.
On a un directeur. On a au-dessus de nous, parce que au-dessus de nous, on a des hommes quand même.
Ouais.
On a un coordinateur d'antenne et un président. Alain. Alain, tu nous entends, on le sait. Il faut que tu viennes dans le studio pour en discuter avec nous. Voilà, mais on a rétabli, cela dit, il n'y a pas de parité dans l'équipe de salariés. Mais cela dit, Radio Saint-Aff est une association avec un conseil d'administration. Il faudrait qu'il y ait plus de filles au conseil d'administration.
Il n'y a que des hommes.
Assemblée générale de la radio, on peut le dire, le 25 février, samedi matin à 10h. C'est l'occasion de le rappeler. Voilà, on fait un petit coucou à Alain parce qu'on sait qu'il nous écoute et que ça... J'espère qu'il rigole derrière son poste.
Il a intérêt. Hein.
T'es pas fâché Alain ? On va se faire virer. Non, quand même. Il est pas comme ça. Allez, la chemise à rayures avec Elsa de Cour et moi-même, toujours là. Toujours légitime ou pas, j'en sais rien.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Saint-Afrique.
Dans la chemise à rayures aujourd'hui, Henri Cellier nous rappellera le thème de la prochaine permanence du groupe Droits et Libertés. Elsa Decour voyagera du côté de Sète pour une expo photo qu'il a faite flasher. Et ce soir, l'association Myriade et la compagnie Création Éphémère vous invitent à une soirée de rencontre autour des soupes du monde. Une façon de se rencontrer et de voyager de façon gourmande. Le comédien Vincent Dubus.
À partir de 19h, c'est
pas vraiment un spectacle, mais c'est entre le repas de quartier et une rencontre entre associations. On fait un partenariat avec l'association Myriade qui est à Millau et la compagnie Création Éphémère. Et on va proposer une soirée autour des soupes du monde entier. Donc chacun peut venir aussi même avec sa soupe, sa création de soupe. C'est bien si le public vient avec son bol et sa cuillère, c'est très bien. Et puis voilà, c'est partager un moment, se rencontrer, échanger. On a intitulé la soirée soupe populaire.
Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h dans le hall de la fabrique à Millau. Et n'oubliez pas que le port du bol est obligatoire. Petite piqûre de rappel, vendredi, le groupe Droit et Liberté tient une nouvelle permanence sur le thème du droit dans la rue. Les explications d'Henri Cellier.
Cette permanence est bimensuelle. En fait, on a une réunion tous les mois et tous les deux mois, on élabore un thème sur lequel on apporte des informations. Le précédent, c'est sur la question du logement. Celui-là, ça va être effectivement sur les libertés dans la rue. Autour de l'idée que c'est quelque chose d'assez important. En fait, il y a deux choses importantes aujourd'hui. C'est quelque part pour un humain, c'est sa santé et puis la vie collective. On va retrouver là un peu tous les trucs. On fait société. Et le lieu où on fait société, c'est l'espace commun. Parce que le reste, on va avoir des lieux un peu privatifs, les maisons personnelles, les entreprises et tout. Et puis le lieu où on est tous ensemble et où il faut qu'on se gère en société, c'est la rue, on va dire, quoi, globalement. Donc l'idée, c'est dans cet espace-là, où on voit bien qu'il y a une volonté des pouvoirs en place, quoi, de contrôler, de limiter une série de possibilités d'expression. Mais c'est un lieu où la liberté est essentielle, parce que c'est le lieu qui fait le plus société, quelque part. Donc l'idée de cette soirée, donc du thème qu'on va travailler là, c'est justement de se poser toutes les questions de ces libertés dans cet espace public. Est-ce que quand on est artiste de rue, c'est quoi la liberté qu'on a ? Quand on est un peu en galère et qu'on veut faire la manche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on veut informer parce qu'on a un problème, distribuer un tract, s'exprimer, manifester ? Simplement discuter en groupe. Aujourd'hui, quelles sont nos libertés ? Quelles sont les limites des pouvoirs de police sur ce genre de contrôle, quoi. Donc voilà un peu la soirée qu'on a prévue, avec l'idée de partir de quelques exposés comme ça, mais d'avoir un avocat qui réponde aux questions, de manière à effectivement pouvoir répondre à des besoins précis de tous les citoyens qui, un jour ou l'autre, ou ont été en butte à des problèmes, ou se disent « mais est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Jusqu'où je peux ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un chien ? Ou est-ce que je peux ? Jusqu'où les chiens des autres m'emmerdent ?» Enfin, les problèmes sont... C'est un espace commun, donc, avec tout ce qu'il peut y avoir comme tension à ce sujet, quoi.
La permanence du groupe Droit et Liberté, c'est vendredi à partir de 18h30 au lieu-dit à Sainte-Afrique. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions sur le répondeur de la radio. Nous les transmettrons à l'avocat invité et ses réponses seront diffusées sur notre antenne. Elsa Decourt, tu as flashé pour une expo photo à 7. C'est pas la porte à côté, mais quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu.
Eh oui, aujourd'hui, partons en balade dans l'Hérault. Venez goûter l'air iodé et délicieux de Sète. Vous vous demandez sûrement pourquoi Radio Sainte-Afrique part dans ce département limitrophe. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas qu'ici, il y a des trucs intéressants. Dans l'Hérault, ça bouge aussi. Avis aux passionnés de radio, de photos, donc, quel lapsus intéressant. Avis aux passionnés de photos. L'association Sète à voir, qui existe depuis 8 ans, a créé il y a peu la Maison de l'Image Documentaire. C'est un nouveau lieu entièrement dédié à la photographie. Valérie Lacquitan, directrice de la Maison de l'Image Documentaire à Sète.
Moi, j'étais parisienne. Je suis venue m'installer il y a 10 ans à Sète. Mon parcours professionnel m'a fait toucher le milieu de la photo, puisque auparavant, j'étais attachée de presse et j'ai notamment travaillé plusieurs années pour les relations presse du festival Visa pour l'Image à Perpignan, entre autres. Et donc voilà, j'ai toujours été beaucoup attirée par la photographie, le milieu de la photographie, les photographes et surtout mettre en avant le travail des artistes. Donc arrivée à Sète, c'était un petit peu un tournant de vie pour moi. J'ai eu envie d'être plus à l'origine des projets qu'à la fin, parce que finalement les relations presse c'est quoi ? Vous arrivez à la fin du projet et vous en faites la promotion auprès de la presse. Et j'avais rencontré tellement de gens impliqués, passionnés, que j'avais envie, moi, d'être plutôt à l'origine des projets et aider les artistes, là en l'occurrence plutôt les photographes, à monter des projets autour de leur travail, à faire connaître leur travail, surtout à monter leur projet d'exposition. Petit à petit est née l'idée de créer cette association. avec d'autres personnes avec lesquelles j'avais travaillé auparavant, des personnes aussi vivant à Sète, des nouvelles connaissances. Et donc, ça a été petit à petit, en fait, l'association C'est à voir a monté différents projets et jusqu'à il y a à peu près 4 ans, où là, c'est monté en puissance avec la création du festival Images Singulières. Et nous avons invité, en fait, en résidence Anders Petersen, une grosse pointure de la photographie contemporaine que nous avons invité en résidence à Sète et qui a été exposée au musée Paul Valéry. Donc ça, c'était un petit peu l'avant-propos de la première édition d'Images Singulières. Alors, Images Singulières, c'est au mois de mai, ça se tient pendant un peu moins de 3 semaines. C'est une quinzaine d'expositions dans à peu près une dizaine de lieux. Donc on a vraiment voulu se servir de la ville, profiter de l'occasion de l'organisation de ce festival pour faire découvrir des nouveaux lieux, faire découvrir la ville de Sète qu'on aime beaucoup. Nous, notre propos, la photographie qu'on a envie de montrer, c'est une photographie donc dite de style documentaire, à savoir un travail entre guillemets journalistique sur des sujets de société, toujours avec une dimension humaniste dans le propos qui est tenu par le photographe, mais avec un vrai regard d'auteur, donc avec également une dimension esthétique.
Les créateurs de l'association C'est à voir se sont rendus compte que dans le paysage culturel français, il y avait bien trop peu de place consacrée à la véritable photographie documentaire. Ils ont donc créé le festival Images Singulières qui a lieu chaque année en mai et qui offre toute la place à de jeunes talents et des moins jeunes de la photographie documentaire. La direction artistique de ce festival est assurée par Gilles Flavier, lui-même membre de l'association C'est à voir et photographe. Mais l'association C'est à voir tourne aussi à l'année avec une riche programmation, celle de la Maison de l'Image Documentaire.
Pour ce qui est de la Maison d'Images Documentaires, donc nous c'est une super aventure parce que voilà, une maison, on a vraiment voulu l'appeler maison parce que pour nous c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où la porte est grande ouverte, donc les gens nous invitons tous nos publics à venir, grande majorité de toutes nos propositions sont gratuites et nous proposons donc une programmation d'exposition à l'année avec une programmation qui change environ tous les 2 mois. Actuellement, nous accueillons une exposition de Patrice Terrase, Les 100 visages du vaste monde et Welcome on board. Donc, c'est un travail sur les marins dans le monde. Une exposition en noir et blanc, donc avec réellement 100 visages, 100 portraits de marins. On a initié des cycles de conférences qui s'appellent les mercredis de la photo. La vocation de la Maison de l'Image Documentaire, c'est de pouvoir valoriser le patrimoine photographique régional. Et là, nous avons choisi de projeter le 26 janvier le travail de jeunes photographes, puisque nous avons clairement été identifiés, nous recevons donc de nombreuses propositions de photographes. Et nous avons pu identifier donc 6 photographes qu'on a vraiment voulu faire découvrir à nos publics et que nous projetterons donc les travaux de ces 7 photographes le 26 janvier. Et ce sera l'occasion d'une rencontre avec ces jeunes photographes sur leur travail, sur leurs espoirs, sur leurs envies, et une rencontre, un échange avec nos publics. La Maison de l'Image Documentaire accueille des expositions, accueille des rencontres, des conférences, des projections, des événements, mais c'est aussi un lieu ressource, puisque nous avons un fonds documentaire. C'est-à-dire nous avons reçu des dons de livres, notamment de Christian Cojol, mais nous sommes en train de constituer un fonds documentaire spécialisé dans la photographie, donc ce qui rend aussi ce lieu un peu unique sur le territoire, parce qu'à la fois nous faisons de la programmation, donc de la diffusion d'exposition, mais nous sommes aussi un pôle ressource, puisque nous avons un fonds de livres très spécialisé sur la photographie qui est consultable sur place. Et d'autre part, nous avons un petit espace assez convivial avec des canapés, etc., où nous avons à disposition donc du public, toujours gratuitement, hein, toute la presse française et internationale photo. Donc nous avons des abonnements de tous les magazines spécialisés en photographie et donc les personnes viennent, s'installent dans les canapés et peuvent bouquiner tout l'après-midi les magazines photo spécialisés, ce qui est relativement bien accueilli. On a même des habitués maintenant qui viennent boire leur petit café et feuilleter la presse photo internationale chez nous.
Le 26 janvier, après-demain donc, à 19h, vous pouvez vous rendre à la projection consacrée aux jeunes photographes de la région Languedoc-Roussillon. Et si vous désirez également connaître davantage l'association C'est à voir, elle vous invite à vous rendre lundi prochain, le 30 janvier, directement à la Maison de l'Image Documentaire à 7 pour une soirée conviviale. L'association C'est à voir travaille aussi avec les scolaires, en partenariat avec les centres sociaux. Elle organise des ateliers avec des jeunes de 6 à 17 ans, des ateliers pratiques photographiques, notamment avec des publics dits des quartiers sensibles. À la Maison de l'Image Documentaire, il y a un labo argentique qui permet d'organiser très régulièrement des stages.
C'est une activité sociale qui pour nous est très importante. Pour nous, la photographie a un vrai rôle social à jouer. Et donc, au-delà de l'échange et de la connaissance et de la diffusion, le rôle social de la photographie dans la sensibilisation des publics les plus éloignés de cette pratique est toujours quelque chose qu'on défend et qu'on veut maintenir, même si du coup c'est un peu la face cachée de l'iceberg, puisque c'est quelque chose sur lequel on communique moins. Mais en tous les cas, qui est une grosse part de notre activité. Travailler avec des publics, des quartiers difficiles, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a plusieurs années et qu'on veut maintenir, développer. Donc on accueille des groupes de scolaires, on accueille des groupes d'enfants, on accueille des associations de femmes voilées, etc. On aimerait même pouvoir ouvrir davantage, donc soit dans de la médiation culturelle, soit dans l'atelier de pratique photographique.
Valérie Lacquitan, directrice de la Maison de l'Image Documentaire à 7 dans l'Hérault. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas seulement une démarche artistique et documentaire, mais bien aussi un projet humaniste, social et solidaire qui se crée autour de cet endroit. Rappelons que le festival Image Singulière 2012 aura lieu du 17 mai au 3 juin de cette année. À vos agendas donc. En attendant, vous pouvez vous rendre jeudi soir à la projection des jeunes photographes ou bien encore juste faire une petite balade dans 7 et découvrir les différentes expositions qui auront lieu intra et extramuros un peu partout dans la ville. Et pour plus de renseignements ou pour déjà voir quelques photos sur le site, rendez-vous donc sur le site de la maison documentaire www.la-mid.fr.
Moi j'ai une idée, Elsa. Tu sais, toutes ces histoires d'hommes, de femmes, de parité.
Ouais.
Il suffirait qu'on devienne des robots et tout ça, ça serait terminé. Ça n'a pas de sexe, les robots.
Marcher comme des robots. Penser comme des robots. Vivez comme des robots.
Restez bien sages, les enfants. Tranquillement, nous allons tuer tout votre sang. Rejoignez au plus tôt l'armée des automates du risque zéro. Hygiène, prévention, gestion de la menace. Rigez chanson. Oui, messieurs, dames, laissez gouverner vos âmes. Partout du rose, de la dentelle. Allez, souriez, vous êtes gérés. Et reprenez en cœur l'hymne de l'armée du bonheur.
Aimer comme des robots, flirter comme des robots, caresser, embrasser comme des robots, penser comme des robots, marcher comme des robots, vivre et crever comme des robots.
Les parlements, les palais, les façades qu'on transforme en affiches, un mur, une affiche, un slogan. Tôt le matin, tu te lèveras,
un sourire tu auras,
bien te tenir, tu sauras.
Des trucs comme ça partout dans la ville, qu'on gommerait en petits soldats. Des mégaphones à chaque coin de rue. Et l'armée du bonheur qui nous gueule dessus.
Aimez-vous comme des robots, flirtez comme des robots, embrassez comme des robots, soyez riches et beaux. Qu'on s'en fout, c'est confort sur la peau, du champagne et de l'or. Mais non, personne ne restera dehors. Mais non, vous n'êtes pas des chamallows. Nos attentes sont là, laissez-vous gérer, ne vous lâcheront pas. Braquez dans toute quiétude, vous êtes bien, vous êtes libre, regardez, c'est la vie.
Aimez comme des robots, flirtez comme des robots, caressez. Comme des robots, pensez comme des robots, marchez comme des robots, vivez et crevez.
Acheter comme des robots, penser comme des robots, marcher comme des robots, vivre et crever comme des robots. Chacun se menace, chacun se menace avec la note. Tu auras enfin la vérité de ton petit être. Aucun ami, ni père, ni mère, ni même le miroir que tu tends chaque matin ne pourra t'apporter ça. Seule l'armée du bonheur te donnera enfin la réponse à l'obsédante question qui te hante. L'obsédante question qui hante chacun. Mais qu'est-ce que je vaux? Mais qu'est-ce que je vaux? Mais qu'est-ce que je vaux? Mais qu'est-ce que je vaux?
Après les robots de Kabat-Zinn, notre troisième CD de la semaine, un peu de poésie avec Florence Jorondeau, qui est loin, loin, perdue dans une ville pluvieuse, Nantes. Elle nous propose des extraits de la Diane française d'Aragon.
De si loin qu'on se souvint, la vie avait cette couleur d'habitude qui emprunte au tournant de saison ses nuances et fait aux hommes une marée d'humeur qui varie avec le soleil et le vent. De si loin qu'on se souvint, il y avait des familles de pêcheurs, des chasseurs habiles à tirer au vol les plumes dans le ciel et la bête des taillis des buscans, et des artisans qui, de père en fils, se transmettaient les secrets du bois. Il y avait des gens qui travaillaient pour eux-mêmes, il y en avait qui se crevaient pour d'autres. De si loin qu'on se souvint, l'eau pouvait être claire ou troublée. Des chiens aboyaient à la mort, les jeunes gens se défiaient à qui jettera le plus loin les pierres, et les chansons parlaient de l'amour et du renouveau. Mon pays. Mon pays a des mares où je lis le soir au couchant. De si loin qu'on se souvint, ce n'était pas un monde toujours fait à notre plaisance, ni au goût de chacun, ni juste, ni sans orage. Ce n'était ni un monde de douceur et de caresses, ni un monde où ce qui est dû est dû. Et la vigne bien partagée, et le fils ne pleure pas de voir son frère préféré, la mère de sa jeunesse évanouie. Vaille que vaille, on franchissait de l'hiver au printemps et du printemps à l'automne les miracles de chaque année. Les neiges, les floraisons, les chaleurs et les pourpris annonciateurs de décadence. Il y avait la diversité des étoiles dans la boue de la terre, et la folie, et la grandeur, et le balancement quotidien des humbles, et la respiration profonde des puissants. Mon pays. Mon pays a des mares où se reflètent les gestes fous des fugitifs, et se rit de la mémoire des vents. Mais qui donc se souciait que ce fût un pays? Il y avait le lit et la lampe, il y avait le vin et le froment. Tout ce qui avait perdu son pouvoir sur les cœurs subsistait encore dans les belles légendes enfantines, les romances, les airs à marcher dont les mots ne s'entendaient plus. Il ne restait de ce pays que son langage, un beau langage qui servait à tout. Qui donc se souciait que ce fût un pays, ce pays? Et il est indiscutable que c'est un grand progrès que de perdre ce sens de la jalousie, cette haine du voisin, cet orgueil de son toit. Un grand progrès sur les ténèbres, un grand progrès sur le néant. Mon pays a des mares et j'y lis le malheur des temps. Et il est indiscutable qu'on y avait plus que des héros, gardés souvenance des infirmes que lui avait valu la dernière épopée et dont on souhaitait qu'elle fût bien la dernière, et qu'il en était sorti un enseignement d'humanité que renie qui veut. Je ne puis pourtant désapprouver, car c'est misère que l'homme soit à l'homme loup. Si bien que les gens écoutaient volontiers ceux qui parlaient avec la paix dans la bouche et disaient qu'elle est sans prix, ce qui est vérité. Mais aussitôt en déduisait qu'il n'est pas de prix qu'on ne donnerait pour elle, ce qui mérite réflexion. Car la lumière est précieuse, mais non point si je dois la payer de mes deux yeux crevés. Mon pays a des mares, et larmes le jour, le soir les fait sang. Au fond de la douleur, immensément renaît la gloire. ce soleil ou ce vin, comme vous voudrez l'appeler. Alors nous chantions tout bas à notre manière. Les refrains murmurés se propagent fort bien. Notre chanson montait aux lèvres sans qu'on sût presque qu'on chantait. Mon pays devenait un grondement profond et sourd, la musique où se résume enfin tout l'espoir et tout le désespoir. Mon pays arrivait dans la nuit vers les régions où commence la lumière. Il pressentait l'aurore, il savait qu'elle est un combat, qu'elle a dans sa pâleur des sanglots et du sang. Mon pays qui chantait abordait la lumière.
Oh, mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin d'où ça ramait. Heureux, celui qui devient sourd au chant, s'il naît de son amour, aveugle au jour d'après son jour, ses yeux sur toi seul fermés. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort, ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Celui qui meurt, mais ma douleur, à qui sans toi le monde est leur, et n'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer. Mon enfant, dit-il, ma chère âme, le temps de te connaître, ô femme, l'éternité n'est qu'une pâme au feu dont je suis consumé. Il a dit aux femmes, et qu'il taise, le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer, heureux celui qui meurt d'aimer.
Florence Jurondeau raconte Aragon, Jean Ferrat le chante. Florence, Jean, vous revenez quand vous voulez. Il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir, pour vous prévenir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Vivement ce soir qu'on se couche. On lâche les micros pour reprendre nos stylos et nos cerveaux. Quelques-uns partent en vacances aussi, on ne dira pas qui. Aujourd'hui, dans la chemise à rayures, un sujet sur la maison documentaire de la photo à 7, sur le groupe Permanence et Liberté, Droit et Liberté, et un petit tour du côté de l'association Myriade. On se retrouve demain à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Merci à toute l'équipe de Radio Saint-Ave. Je vous rappelle juste qu'il y a Radio Cartable ce soir à 20h. C'est la nouvelle formule de l'émission des élèves de l'école du Rougier de Montlaur. Au revoir.